2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 à 3. Au nom de Jésus. David est consacré roi d'Israël. Tous les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: nous sommes de ta race, de ta famille. Autrefois, lorsque Saül était encore notre roi, tu étais déjà à la tête des expéditions militaires d'Israël, et le Seigneur t'avait déjà dit: c'est toi qui gouverneras Israël, mon peuple, c'est toi qui en seras le chef. Tous les anciens d'Israël vinrent donc auprès du roi à Hébron. David y conclut une alliance avec eux devant le Seigneur, et ils le consacrèrent roi d'Israël. Amen. Chers amis, s'il y a un seul et unique mot qui puisse résumer, on va dire, ce texte ou remplacer ces trois versets concernant la vie de David, c'est le mot « enfin ». Enfin ! Et avec un grand soupir, enfin, un grand soulagement. Un mot qui exprime un aboutissement après une très longue attente dans la vie de ce personnage. Pourquoi? Pour bien comprendre le sens et la valeur de ce mot « enfin » ici, en lien avec David, nous sommes obligés de faire une sorte de marche arrière, de rappel, de révision, pour voir un peu le parcours de David jusqu'à ce qu'il arrive à cet aboutissement, là où il est devenu roi d'Israël. David était le dernier parmi les fils de Jessé. Vu qu'il soit le tout dernier de la famille, il n'a pas été pris en compte, hein, ce David. Son rôle à lui, puisqu'il ne compte pas, c'est de garder les moutons dans les champs, dans les montagnes. Allez, petit, va paître les brebis. Et même ses frères ont été envoyés au front de bataille contre les oppresseurs, les Philistins, parce que c'était des vrais guerriers, c'est des hommes. David, lui, ce n'est qu'un petit adolescent. Rappelez-vous le défi qui a été lancé par Goliath. Goliath qui a osé insulter l'armée de Dieu. Celui qui était encore sur le trône d'Israël, à ce moment-là, c'était Saül. Or, Dieu a dit à Samuel: j'ai enlevé le pouvoir, la royauté entre les mains de Saül. Et il l'a fait connaître, sa décision, au prophète Samuel. Va, cherche le futur roi d'Israël. Vous imaginez un peu ce qui était dans le cœur de Samuel. Mais il y a encore un roi sur le trône. Pourquoi je dois déjà trouver le remplaçant sur le trône d'Israël? Mais Dieu a dit: va, Saül n'est plus roi à mes yeux. Alors un jour, Samuel est parti chercher et Dieu l'a envoyé chez le domaine de Jessé. Et il a fait convoquer tous les fils de Jessé. Où sont tes fils? Ils étaient là pour passer un casting. Fais passer un par un tes fils. Alors Samuel a beau être prophète de Dieu, bien sûr, mais il reste toujours un être humain. Un être humain est toujours influencé par ce qu'il voit de ses propres yeux au lieu de voir selon les yeux de Dieu. Alors, quand Éliab est passé devant Samuel, Éliab, le fils de Jessé, ce dernier fut impressionné. Samuel était impressionné, vu sa stature. Il était grand, Éliab, d'une haute taille. Alors, il s'est dit dans sa tête, c'est lui qui devait être le futur roi d'Israël, parce qu'Israël, à ce moment-là, avait besoin d'un guerrier, un homme fort, un homme robuste. En principe, un roi doit être un chef de guerre. en Israël, un vaillant guerrier. Hélas, Dieu a refusé le choix de Samuel, même si c'était le prophète de Dieu. Même les prophètes de Dieu peuvent se tromper, chers amis. Dieu a refusé le choix de Samuel. Il a dit, toi tu regardes à l'apparence, moi je regarde les cœurs. Alors une fois que tous les fils de Jessé sont passés, il n'y avait plus personne. Et Samuel lui a encore posé une dernière question. N'as-tu pas d'autres fils? Parce que jusqu'à maintenant, l'Éternel a dit non, non, non à chaque fois. Et lisez le texte, la réponse de Jessé était vraiment incroyable. Comme s'il a complètement oublié qu'il avait un autre fils, David. Il l'a oublié, comme s'il n'existait pas. Voilà ce qu'il a dit. Ah oui, il reste encore le petit. Ça, c'est sa phrase. Hein. Il reste le petit, mais il fait paître le troupeau. C'est-à-dire, lui, il ne compte pas. On sent dans cette phrase que celui-ci est incapable. C'est un incapable. Il n'a pas les épaules larges pour ça. Mais Dieu a dit, fais-le venir, je vais le voir. Et quand il est passé, l'Éternel a dit, c'est lui que j'ai choisi. Et même, il est écrit dans 2 Samuel, il avait les cheveux roux, ça veut tout dire. Hein, ça veut tout dire. Mais depuis le temps qu'il a été consacré ce jour-là, il était consacré roi d'Israël tout en étant ado, vous imaginez? Et sa vraie prise de fonction, il devrait encore attendre des années plus tard, cette promesse qui a été réalisée. Et je vous assure, ce David est passé par des longues tribulations. Il a risqué sa vie contre le géant Goliath. Il a connu un court moment de gloire quand il a gagné contre Goliath. Tout le monde l'a loué. Ah, David, David, David. Mais très vite, sa gloire était devenue la source de ses ennuis. Le roi Saül était jaloux de son succès. Et il avait peur pour son trône, bien sûr, comme tout homme politique. Et de ce fait, David était obligé à chaque fois de se retirer dans le désert avec sa troupe et se cacher dans des grottes. Et là, il commençait à jouer au chat à la souris entre Saül et David, considéré comme un rebelle. Il a été pourchassé et à plusieurs reprises, le Seigneur lui avait mis entre ses mains la vie de Saül. Rappelez-vous, un moment, Saül se reposait et ne voyait pas que David était derrière. Il a coupé un bout de son tissu pour lui dire « Je pouvais te tuer, père !» Il l'a même appelé « père », mais pas « roi !» Mais je ne l'ai pas fait parce que tu es celui qui a été élu de Dieu. Il aurait pu profiter de cette occasion comme... Quoi, Dieu lui a livré son ennemi. Voilà, c'est l'occasion en or. Tue-le. Non, ces hommes ont dit, mais qu'est-ce que tu attends, David? Finis sa vie. C'est l'Éternel qui est avec toi. Mais il a dit, qui suis-je pour toucher à la vie d'un roi d'Israël? Pourquoi il a refusé? Il attendait le moment de Dieu qui va lui-même. Ce n'est pas moi qui va réaliser les promesses, c'est Dieu qui va le faire. C'est Dieu qui va tout faire, non seulement la promesse, mais le moment où ça va être choisi. Et voilà le texte que nous avons aujourd'hui. Enfin, ce moment tant attendu est arrivé dans notre texte maintenant. Chers amis en Christ, Dieu n'a pas besoin de notre aide, ni de notre participation dans la réalisation de sa promesse. Il est capable de le faire tout seul, sans nous. Et quand Dieu dit quelque chose, non seulement il est l'investigateur, mais il est lui aussi le réalisateur. Il ne fait pas ceci, je te promets quelque chose, à toi de te débrouiller, de le réaliser. C'est lui aussi qui va le faire. Et face à la promesse de Dieu, nous sommes passifs. Et non actif pour l'accomplissement de ce qu'il promet. Et ça, ça nous dérange, parce qu'on veut faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Je dois contribuer à quelque chose. Non, tu te tais, tu attends que Dieu réalise sa promesse. Et ça, l'homme n'en veut pas. Quand l'homme commence à mettre son bout du nez dans les affaires de Dieu, les problèmes arrivent. À l'exemple d'Abraham, Dieu a promis qu'il aura un fils avec Sarah. On vient de le chanter tout à l'heure dans l'Alléluia. Dès lors que Sarah a donné un petit coup de pouce à la Providence, allez, un petit coup de pouce, qu'est-ce que c'est devenu? La solution qu'elle a mise en place a court-circuité celle du Seigneur et crée encore plus de pagailles. David avait ses défauts, bien sûr. David avait ses faiblesses, certes. Mais ici, les deux Saül et David étaient des prototypes de deux comportements tout à fait opposés chez nous, l'être humain. Ce qui a causé la chute de Saül, c'était son impatience. Il voulait toujours faire les choses selon son propre timing, selon son vouloir. Je veux à tel moment, à tel endroit et par tel moyen. Je vais vous donner deux exemples. La première, lorsqu'Israël était sur le point d'attaquer les Philistins, dans la tradition, avant de lancer la bataille, Israël faisait un rite, il donnait un sacrifice à Dieu et ensuite l'armée se lançait au combat. Mais normalement, c'est le prophète ou le grand prêtre qui a le droit de faire ce sacrifice, non le roi. Or, Samuel tardait. Alors le roi qui voyait les Philistins qui venaient à s'approcher tout doucement, il perdait patience. Il dit, ben, écoute, je vais le faire. Tant pis, il prend trop de temps, ce Samuel, je vais le faire. Il a effectué le rite sacrificiel que seuls les prêtres pouvaient le faire. Et ce jour-là, Israël a été vaincu. Un deuxième exemple. Quand il sentait que Dieu ne lui parlait plus, puisque Dieu a déjà choisi un nouveau roi, sans qu'il le sache, alors il a voulu consulter l'âme de Samuel. À ce moment-là, Samuel était déjà mort. Il voulait consulter l'âme de Samuel dans le séjour des morts, en se faisant passer pour un simple serviteur du roi, parce que consulter une sorcière en Israël est formellement interdite par la loi de Dieu. Et en retour, Samuel lui a annoncé qu'il mourra, lui et ses fils, demain sur le champ de bataille. Ça, c'est le prototype des gens qui n'ont pas la patience, qui n'attendent pas Dieu, mais veulent faire les choses à leur propre sauce. Et le résultat, c'est encore le chaos. Tandis que David, lui, on peut dire, pendant une grande partie de sa vie, il attendait la réalisation de sa promesse. En lisant ainsi, c'est facile, chers amis. Imaginez-vous, mettez-vous à la place de David. Il avait, je ne sais pas quel âge, en recevant cette onction de roi, mais il attendait, il attendait, il attendait. Il avait l'occasion en or de le faire, mais il a dit non, ce n'est pas à moi de le faire, c'est à Dieu. Cette attitude-là n'est pas conforme à l'exigence de la vie imposée par la société aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans une société, maintenant, je dois faire quelque chose. Tout de suite, il me faut ceci. Et aux yeux du monde, ce serait ridicule et idiot d'attendre la main de Dieu. Y compris le retour du Christ. Il y a des gens qui se moquent de nous. Vous croyez encore à ça, vous? Vous attendez le retour du Christ? Ça fait rigoler les gens. Et si nous faisons la comparaison entre le roi David et Saül, à part ce que nous avons déjà dit précédemment, si on regarde leur histoire d'accession au trône du roi, il y a une grande différence qui s'impose. Regardez bien, le contexte de l'arrivée de Saül au pouvoir était dans un contexte où le peuple réclamait à Dieu un roi. Nous voulons un roi par tous les moyens. Et ils ont même forcé la main de Samuel. Donne-nous un roi. Et lorsque Samuel les a prévenus du prix à payer pour avoir un roi, voilà ce qui vous attend. Vos enfants seront pris de force pour devenir des combattants. Oh, c'est pas grave, disaient les gens. Vos filles, les rois vont les prendre pour devenir ses servantes. C'est pas grave. Vos terres seront réquisitionnées pour le roi. Oh, c'est pas grave. Vous serez taxés. Oui, c'est pas grave. On veut un roi. Bon, ok. Dieu l'a donné. En revanche, le contexte pour David, c'est tout à fait le contraire. David n'a pas demandé quelque chose. Personne n'a demandé un roi. C'est Dieu qui a dit, je vais choisir un roi. C'est lui qui l'a trouvé. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, il est dit, j'ai trouvé David, fils de Jessé, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. J'ai trouvé, c'est-à-dire c'est lui qui a cherché. Donc vous voyez, le choix et l'élection vient de Dieu, mais on l'a même ignoré. Son accession au trône est une pure grâce. Et dans le texte, on voit qu'il a eu vraiment un état de grâce, David. Car depuis qu'Israël est Israël, l'unité du royaume a été toujours problématique. Les 12 tribus n'ont jamais été unies, sauf uniquement au temps de David. Et c'est ce qui est écrit ici. On peut dire alors que le règne de David est exceptionnel parce que juste après lui, après David, son fils Salomon, le royaume a été coupé en deux. Les 10 tribus au nord, les 2 au sud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de David est ce qu'on appelle un royaume messianique, puisque le Messie viendra de son trône. Et quelle est la particularité de ce royaume messianique? Le roi n'est pas là pour être servi comme un seigneur. Il est là pour prendre soin de ses ouailles. C'est ça un roi messianique. Il est là pour servir et non pour être servi. Contrairement à Saül, il est là pour être servi. Et à l'image de David, il a tout fait de son vivant, David, pour que Salomon, son fils, n'ait rien à manquer lorsqu'il va construire le temple. Rappelez-vous, David voulait construire le temple. Dieu a dit, non, c'est pas toi qui vas me construire le temple, c'est ton fils. Et David a dit, mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi? Tu as du sang dans tes mains. Alors, il a accepté cette volonté de Dieu, mais il a tout préparé, toutes les fournitures pour la construction du temple. C'est David qui l'a fait. Mais puisque cela lui a été refusé de le construire, il a tout de même rassemblé les richesses pour le futur temple. Cette histoire me fait rappeler la parabole du grand mariage. Le roi qui envoya ses serviteurs à faire entrer dans la salle de fête les personnes qui n'étaient pas prévues de venir à l'invitation de mariage. Ils sont là. Ils ne sont même pas connus de la famille royale. Ils ne sont pas des nobles, ces gens qui viennent à ce mariage, pour avoir le mérite de venir à cette fête. C'est une initiative du roi seul. Et dans l'évangile, il est même dit qu'on les a obligés d'entrer. Ça, c'est la version lucanienne, la version dont Luc. Seul Luc précise cette partie. Obligez-les d'entrer dans ma fête. Donc, ça ne vient même pas de leur volonté. Et la cerise sur le gâteau, comme on dit, il n'y avait plus rien à faire, il suffisait de manger. Tout est déjà là. Tout est déjà prêt. Et voici ce qui a été dit. Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Chers amis, dans le royaume de Dieu, tout est prêt. Il n'y a rien que nous devions fournir pour l'acquérir. Jésus t'attend. Il a lancé une invitation. Et je dis toujours aux gens, quand est-ce que Dieu m'a envoyé cette invitation à son mari, à cette grande fête, le jour de mon baptême? Il m'a envoyé une invitation. Rappelles-tu? Tu es invité. Viendras-tu à ce jour de fête? C'est lui qui fait tout. Pourquoi se priver de cette table bien garnie, bien dressée, où l'on pourrait bien profiter de sa fête? Que le Seigneur soit avec vous. Amen.